Aujourd'hui, c'est le vin qui se lève. Le vin, c'est la lettre Khaf. Khaf, c'est la première lettre de Keter. Et Keter, c'est la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Donc, ce jour du vin qui se lève, c'est le lendemain. Et il fait partie aussi du 19 qui se lève, puisqu'il s'agit aussi de la libération de la Noura Zaken de prison. Et par là, tout le monde le sait, la libération de la Chassidut, c'est-à-dire le dévoilement de l'essence de la Torah, de la partie la plus profonde de la Torah dans ce monde matériel. Alors hier, je me suis trouvé à un Fabringen et le Rav parlait, il a cité un Dvar Malchut de la Parasha Toldot, dans lequel le Rabbi parle de l'essence de l'âme d'un juif, et il parle donc de ce niveau-là, qui est un niveau supérieur, et il explique que le fait qu'un juif il ouvre les yeux le matin, ça correspond au dévoilement de l'essence de son âme. Et là-dessus, il a été interrompu par un chassid qui lui a demandé « Mais à quoi ça me sert à moi de savoir tous ces enseignements très élevés qui procèdent de ce dévoilement de l'essence divine ?» Donc, aux yeux de ce chassid, ces enseignements-là, ils étaient quelque part dénués d'intérêt, finalement, puisque ce chassid-là, il n'arrivait pas à faire le lien avec sa vie de tous les jours. Or, ce sujet-là, c'est précisément le sujet qui habite tous les enseignements du Dvar Malchut, sans exception aucune, le Rabbi nous parle du dévoilement de l'essence divine, et en particulier dans cette paracha Vayeshev, puisque la paracha Vayeshev parle de l'installation de Yaakov, et donc l'installation de Yaakov, le fait que Yaakov va s'installer sur une terre en particulier, il évoque justement le fait, la mission de chaque juif, de faire de ce monde une demeure pour l'essence divine, en libérant le divin qui est enfoui dans ce monde matériel. Et là-dessus, à ce sujet, le Rabbi il va nous apporter un enseignement qui est très intéressant, puisque le Rabbi nous explique pour quelle raison, il pose la question, pour quelle raison on a le sentiment qu'on ne doit notre existence qu'à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout conscience que la parole de Dieu, elle se trouve à l'intérieur de la matière, qu'elle crée la matière, qu'elle la maintient en vie à chaque instant, qu'elle la vivifie. De la même façon, la parole divine qui est en nous, qui nous crée, qui nous maintient en vie, c'est donc l'origine même de notre existence. On n'a aucune idée, aucun sentiment, on ne ressent absolument pas l'origine de notre existence. Et on ressent seulement comme si que nous étions nous-mêmes à l'origine de notre propre existence. Donc on ne ressent pas la parole de Dieu qui nous crée et qui nous maintient en vie à chaque instant. Et là-dessus, le Rabbi nous explique que c'est précisément parce que Dieu, il crée vraiment l'homme à partir de son essence, c'est-à-dire que même ce monde matériel, la matière elle-même, elle provient de l'essence de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est créée à partir du néant. Elle vient de Dieu lui-même, c'est Dieu qui crée la matière de ce monde à partir du néant. C'est Yesh Miayin, l'existence elle provient du néant divin. Donc seul Dieu est capable d'effectuer cette opération, de créer à partir du néant, de créer la matière de ce monde. Donc l'origine de ce monde matériel, c'est l'essence divine. Et de la même façon, les créatures qui habitent ce monde, nous-mêmes, nous provenons de l'essence divine. Et c'est précisément pour cette raison que nous avons l'impression que nous ne devons notre existence qu'à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout l'impression que Dieu est à l'origine de notre propre existence. On a l'impression que notre existence, nous ne la devons qu'à nous-mêmes, parce que l'essence divine est en nous-mêmes. Et le caractère de l'essence divine, c'est que rien ne la précède. Dieu ne doit son existence qu'à lui-même. Et de la même façon, comme l'essence de Dieu est en nous-mêmes, on a l'impression que nous devons notre existence qu'à nous-mêmes, parce que justement, l'essence de Dieu est en nous. Alors, je répète pour que vraiment essayer d'être le plus clair possible. On voit que l'essence divine, c'est la seule qui est capable de créer la matière à partir du néant. Et donc, Dieu, c'est le seul qui doit son existence qu'à lui-même, rien ne le précède. Et du fait que nous-mêmes provenons de l'essence de Dieu, de ce niveau-là, alors on a aussi ce sentiment qu'on ne doit notre existence qu'à nous-mêmes. On a l'impression d'être des êtres indépendants. On a l'impression que nous sommes à l'origine de notre propre existence. Évidemment, ce n'est qu'une impression, puisque Dieu, il anime chacun, il nous crée à partir du néant, il nous maintient en vie, il nous vivifie à chaque instant. Et là-dessus, le roi David, vraiment, il dit que la parole de Dieu se trouve éternellement dans le ciel. Et le Baal Shem Tov explique que chaque moment de l'existence est vivifié donc, et Dieu vivifie et maintient en vie chaque être de ce monde. Maintenant, une seconde particularité de l'essence, c'est que elle a le pouvoir de pénétrer dans les éléments les plus bas, de pénétrer jusque dans les niveaux les plus inférieurs. C'est pour ça qu'on compare l'essence de la Torah, la chassidut, à de l'huile, puisque l'huile, elle a le pouvoir de pénétrer dans les matières les plus dures, dans les matières les plus résistantes. Et donc, on voit que la qualité de l'essence divine, comme l'huile, c'est d'éclairer. C'est-à-dire, la qualité de l'essence divine, c'est de transformer l'obscurité en lumière. Et c'est précisément le sujet vraiment central du Dvar Malchut, le fait que Yaakov va s'installer dans un endroit en particulier. Et là-dessus, le rabbi explique que les Juifs, il n'y a jamais eu, comme aujourd'hui, une dispersion comme ça aussi. On voit que chaque Juif, vraiment, il occupe chaque endroit de ce monde. Et c'est dans un but bien précis, évidemment, c'est dans le but de dévoiler dans chaque endroit de ce monde la lumière divine, de faire de ce monde une demeure pour l'essence divine. C'est ça le point qui est important. C'est pas seulement une demeure pour Dieu, c'est une demeure pour l'essence divine. Alors c'est pour cela que le rabbi, il établit vraiment la différence entre les mondes supérieurs et ce monde matériel dans lequel l'homme se trouve. Dans les mondes supérieurs, la différence c'est que les mondes supérieurs, les mondes spirituels supérieurs, ils ne proviennent pas de l'essence divine. C'est pour ça que, contrairement à ce monde matériel qui provient de l'essence divine, les mondes supérieurs, ils ressentent leur source. Ils ressentent que l'origine de leur existence, c'est la Elokout, c'est le divin qui les crée et les maintient en vie. Et donc ces mondes supérieurs-là, ils ne contiennent pas l'essence, comme c'est le cas de ce monde matériel. Et nous-mêmes, ce monde matériel, du fait qu'il contient l'essence, on doit dévoiler cette essence-là, justement, qui se trouve dans ce monde matériel. Et là-dessus, le rabbi explique que le birour, le fait de raffiner ce monde, le fait de faire de ce monde matériel une demeure pour Dieu, de le purifier, de le raffiner, la perfection de cette opération-là de birour et de raffinement dépend du raffinement de la France. Tsarfat, ça c'est un enseignement qui nous touche vraiment à chacun d'entre nous, parce que Tsarfat, vraiment, ça vient du mot, comme nous l'enseigne le rabbi, ça vient du mot Tsirouf. Tsirouf, c'est l'action de prendre un métal comme de l'argent et de l'or, de le brûler pour faire apparaître les déchets et les séparer du métal. C'est-à-dire vraiment purifier un métal pour obtenir de l'or pur, obtenir de l'argent pur, en le débarrassant de tous ses déchets. Donc Tsirouf, c'est cette action de purifier, de raffiner. Et c'est le birour vraiment de ce monde, la perfection du raffinement de ce monde, dépend précisément du raffinement de la France. Alors le rabbi, il explique qu'il y a deux façons d'agir dans le monde. On peut influencer le monde en y apportant de la lumière, en apportant la lumière de la Torah, mais ce dévoilement-là, c'est un dévoilement qui est superficiel, parce que la lumière qu'on apporte et l'endroit dans lequel qui va recevoir cette lumière vont demeurer séparés. C'est-à-dire que si on arrête d'influencer l'endroit, on n'aura pas transformé l'endroit véritablement. Et c'est le second niveau, c'est le niveau supérieur. C'est le fait de transformer cet endroit en une source de lumière. Donc ça s'accorde avec l'enseignement du Machiar au Baal Shem Tov quand il lui a déclaré, il lui a dit « Je viendrai quand tes sources se répandront à l'extérieur ». C'est-à-dire que il s'agit pas seulement de répandre l'enseignement de la Torah à l'extérieur, mais il s'agit de faire de chaque endroit une source. C'est-à-dire que l'endroit lui-même, de le transformer de manière à ce que l'endroit lui-même va diffuser de lui-même, va vraiment devenir un endroit indépendant, un endroit qui a plus besoin de recevoir de la lumière, mais un endroit qui va dispenser de la lumière. C'est précisément cela, dévoiler l'essence divine dans un endroit en particulier. C'est-à-dire que l'endroit lui-même devient, on révèle l'essence qui se trouve dans cet endroit. C'est-à-dire que ce n'est plus un endroit qui va être dépendant de notre action, mais c'est un endroit qui lui-même va devenir vraiment indépendant, atzmaï. C'est l'essence elle-même, cet endroit-là, l'essence va se révéler dans cet endroit. Encore une fois, l'exemple de l'huile, il convient ici, puisqu'on voit que l'huile a le pouvoir de pénétrer dans les matières les plus résistantes. Et c'est ça, à cela s'accorde le fait que le rabbi va déclarer qu'en raffinant la France, on va parvenir à la perfection du raffinement de ce monde matériel. Parce que justement, la France représente la clipa la plus grossière. Ça commence avec l'histoire de Napoléon. On sait que l'admiral Zaken y souhaitait la victoire des Russes sur la France, parce que justement, il disait que même si, par le fait que la France gagne la guerre contre la Russie, cela apporterait une aisance matérielle au peuple juif, malgré cela, cela apporterait des déficits au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'on perdrait spirituellement. C'est pour ça que l'admiral Zaken souhaitait la victoire des Russes, parce que elle impliquait cette victoire des Russes, le fait que le peuple juif ne soit pas handicapé spirituellement, comme ce serait le cas si la victoire revenait à la France. Donc l'histoire même de Napoléon nous apprend aussi qu'elle présage de ce qui allait se passer par la suite, de la Révolution française. Et la Révolution française, elle représente le fait qu'on se détache du divin. C'est pas pour rien que le peuple français a coupé la tête du roi. Le rabbi nous explique que couper la tête du roi, c'est se séparer du divin, c'est vraiment se séparer du roi des rois, c'est atteindre une laïcité, un endroit où on ne dépend plus de Dieu, mais un endroit qui ne dépend que de l'homme. Donc c'est une clipa qui est très très basse, qui est très inférieure et qui est très grossière. Et là-dessus, le rabbi vient nous dire que c'est en élevant justement ces niveaux les plus bas et les plus grossiers qu'on parvient à élever le monde entier, et même tous les mondes de la création. Donc le birour, vraiment, le fait de raffiner la France, c'est le fait, ça provoque un raffinement général, ça provoque une purification de ce monde tout entier. Alors pour transformer un endroit comme la France, transformer n'importe quel endroit de ce monde, le rabbi nous explique que c'est en construisant des bâtiments qui sont empreints de Torah, c'est-à-dire construire des synagogues, construire un Beth Amidrash, construire des écoles, construire un endroit dans lequel on va enseigner la Torah, la profondeur de la Torah. Et le rabbi nous cite l'action des Rebbeim Chabad, le fait que au départ ils étaient confinés d'une certaine manière dans l'endroit où ils vivaient, puis à partir du rabbi Maharash, et avec le rabbi Rachab, avec le rabbi Rayatz, on voit qu'ils se sont rendus en France et qu'ils ont mené une action en France, dans la France elle-même. Même le rabbi lui-même a vécu 8 années en France, donc il a agi aussi. Donc ils ont agi dans le but de purifier et de raffiner cet endroit de grossièreté, cet endroit vraiment qui est bas, puisqu'il est l'expression du détachement, le fait de se détacher du divin et de mener une existence totalement détachée de la loi divine. Alors on pourrait expliquer, puisque le rabbi nous dit que quand on arrive dans un endroit et qu'on veut transformer un endroit à l'image d'Hachem qui a regardé dans la Torah et qui a créé le monde, donc la Chassidut emploie l'exemple de l'architecte qui va construire un bâtiment, il va regarder dans le plan pour construire ce bâtiment, et justement le rabbi fait dépendre le fait de transformer un endroit de Touma à un endroit de sainteté par le fait de construire des bâtiments. Donc justement, à l'exemple de Dieu qui regarde dans la Torah, on doit dévoiler l'essence divine qui se trouve dans ce monde matériel, comme on l'a dit, uniquement dans ce monde matériel et pas dans les mondes supérieurs, justement en construisant des bâtiments, en construisant des écoles, en construisant des endroits dans lesquels va être enseignée la Torah, puis va être diffusée la Torah. Là-dessus, le rabbi ajoute que la 770, c'est la valeur numérique du mot Tsarfat, c'est aussi le chiffre de la maison du rabbi, de l'adresse de la maison du rabbi, donc de l'endroit où se révèlent les enseignements de la partie profonde de la Torah, qui sont enseignés à des émissaires qui vont ensuite parcourir le monde pour diffuser l'essence de la Torah à travers le monde. Donc la maison du rabbi, 770, ça évoque justement le dévoilement de l'essence divine dans le monde, dans ce monde matériel. Et c'est sur le sujet même de ce Dvar Malchut, de dévoiler le contenu profond qui existe dans ce monde matériel. Donc c'est par le raffinement de la France. Dans ce raffinement-là, justement, dans le chiffre 770, est allusionnée la force grâce à laquelle on attire le dévoilement de l'essence divine. Le rabbi nous enseigne que quand on s'installe dans un pays, vraiment c'est de cette manière-là qu'on peut dévoiler l'essence. Quand on vit dans ce pays, quand on s'installe dans ce pays, et qu'on exploite les usages de ce pays, c'est-à-dire qu'on les exploite et qu'on parvient à les transformer. Évidemment, on doit agir selon les usages d'un pays s'ils ne sont pas contraires à la halakha. Mais à partir du moment où ils ne sont pas contraires à la halakha et qu'on exploite ces usages-là qui sont, disons que si on exploite les particularités, les coutumes d'un pays et qu'on les adapte, on les diffuse à travers le projet divin, vraiment, alors on parvient vraiment à transformer l'obscurité en lumière. Alors si on prend le cas de la France, c'est un pays qui est très connu pour sa cuisine, pour la mode, pour les vêtements, pour ses monuments historiques. Rien que ces trois éléments-là, ils sont pas cités par le rabbi, mais on pourrait expliquer, d'après les enseignements du rabbi, que justement la cuisine, justement le raffinement de la cuisine, ça nous apprend à raffiner notre propre corps, donc élever la cuisine à ce niveau-là, à s'imprégner des enseignements du Tanya, de la Gemara Zaken, de la Chassidut, sur les aliments, sur le fait que l'aliment il devient du sang dans le corps et que ce sang-là il doit être pur, donc l'importance de la kashrout. Ensuite, quand on parle des vêtements, de la mode c'est un phénomène qui change sans cesse, tous les ans, la mode va changer, donc c'est contraire à la définition de la chassidoute, de la vérité. La vérité c'est quelque chose qui ne change pas justement. Donc un juif, évidemment, il doit apprendre la tzniout dans sa manière de s'habiller, et donc les vêtements eux-mêmes, ils doivent être l'expression de justement de la tzniout, l'expression de l'accord avec la volonté divine, de vivre en accord avec ce que Dieu attend de chaque juif. Et aussi, on pourrait voir aussi une allusion aux vêtements de l'âme, à la pensée, la parole et l'action, le fait de raffiner les vêtements de l'âme, aussi bien que nos propres vêtements, qui cachent les parties de notre corps, on doit purifier les vêtements de notre âme, nos pensées, nos paroles et nos actes. Ensuite, quand on parle des monuments historiques, des musées, là aussi, on doit comprendre que justement, on doit s'attacher à construire des bâtiments qui sont emprunts, dont le contenu profond est celui de la Torah et des mitzvot. Et donc, la véritable beauté, elle vient de la vérité. Donc, tous ces éléments qui sont des caractéristiques de la France, et quand ils sont employés de l'autre côté de la sainteté, ils représentent justement cette éclipse la plus grossière. Mais quand ils sont employés du côté de la sainteté vraiment, quand on exploite justement ces qualités-là et on les exploite, et on s'acharne vraiment à se servir de ces caractéristiques, mais du côté de la sainteté, alors on fait véritablement une demeure pour Dieu, pour l'essence de Dieu dans ce monde. Bezrat Hashem, que ces enseignements-là soient en accord avec la volonté de chacun de faire tout ce qui est en son pouvoir pour provoquer le dévoilement du Machiav dès à présent avec l'aide de Dieu. Shabbat Shalom, Umevorach.